À l'occasion de la journée annuelle de l'expérience patient, retrouvez les podcasts de l'IFEP animés par Jessica Falour.
Et dans cet épisode, j'accueille Patrick Méchin, chef du service certification des établissements de santé à la HAS, la Haute Autorité de Santé. Bonjour Patrick, merci d'être avec nous.
Bonjour Jessica.
Alors la certification, c'est un vrai sujet pour les établissements de santé. Pour tous ceux qui nous écoutent et qui ne seraient pas des professionnels du secteur, est-ce que vous pouvez nous expliquer comme ça rapidement ce que c'est ?
Alors très rapidement, la certification, c'est un moment obligé pour les établissements de santé parce qu'en fait, chaque établissement de santé a l'obligation de passer la certification. Et la mission a été confiée à la Haute Autorité de Santé. Donc il y a une obligation en fait pour chaque établissement de santé d'être certifié. Et cette certification, elle repose sur un référentiel de certification. Ce référentiel de certification a été travaillé en associant les professionnels de santé à travers les parties prenantes, les conférences de présidents de CME, de directeurs de CHU, etc. Ce référentiel de certification, il est co-construit. Ce référentiel de certification, il est appliqué dans les établissements de santé et l'applicabilité de l'ensemble des critères du référentiel sont vérifiés par des experts visiteurs qui sont des pairs. Donc ce sont des directeurs d'hôpitaux, des médecins, des infirmières, des directeurs de soins. Donc ils participent à travers une visite de certification à évaluer l'atteinte des objectifs fixés par les différents critères du référentiel de certification.
Alors depuis 2022, la HAS intègre l'expérience patient dans la certification. De quelle façon exactement ? Il y a plusieurs outils.
Alors il y a plusieurs outils, donc effectivement il y a plusieurs critères aussi qui parlent de l'expérience patient, de l'engagement des usagers, des droits des usagers, et du coup on a plusieurs méthodes qui viennent regarder ou apprécier la manière dont chaque équipe prend en compte l'expérience des patients à travers des audits et ce qu'on appelle les audits patient-traceurs, donc l'expert visiteur va rencontrer un patient et en suivant, va rencontrer l'équipe qu'il prend en charge. Et donc, on va pouvoir mesurer et comparer le point de vue à la fois du patient et de l'équipe. Donc, c'est très intéressant parce que ça permet effectivement d'apprécier les écarts qui peuvent exister entre les perceptions des uns et des autres. Et puis, on a aussi des rencontres des représentants des usagers. Et ces représentants des usagers, en fait, ils ont un rôle important dans la vie institutionnelle. Puisqu'ils participent à la définition des orientations stratégiques d'un établissement de santé, notamment sur les politiques d'accueil des établissements de santé, sur l'accessibilité de l'hôpital. Et donc ce rôle important, confié par le législateur là aussi, donne effectivement aux représentants des usagers une voix prépondérante dans la vie institutionnelle.
Parmi vos outils, il y a également ISATIS. C'est un questionnaire que vous envoyez aux patients après leur séjour, après leur hospitalisation. Et alors, ça permet quoi ?
Alors, c'est un questionnaire très important parce qu'en fait, il permet de recueillir aujourd'hui deux approches. En fait, une approche satisfaction du patient par rapport à sa prise en charge, mais également, il donne un avis sur l'expérience du patient par rapport à la manière dont les soins ont été organisés pour lui. De comment il est arrivé à l'hôpital jusqu'à ses soins, bien sûr, qui ont été diligentés par l'équipe de soins, la manière dont il a été associé aux décisions qui le concernent et la manière dont la sortie a été préparée pour lui permettre de sortir dans de bonnes conditions et d'assurer une continuité, une coordination des soins. Et donc, c'est un outil qui est aujourd'hui recueilli sous forme de questionnaire, comme vous le dites, donc à distance du séjour. Donc, on aura préalablement, dans chaque établissement de santé, recueilli les adresses mail des patients. Ils auront reçu ce questionnaire par mail, donc. Et puis, ils pourront cocher des oui et des non, mais ils pourront aussi écrire des verbatims. Ce qu'ils perçoivent, ce qu'ils ont perçu, des mots-clés, des choses utiles à prendre en compte par les équipes de soins. Et ces verbatims reviennent à l'établissement de santé et chargent à chaque établissement de santé de les diffuser auprès de chaque équipe. Et donc, ainsi, par exemple, un séjour en maternité, vous avez accouché, vous avez une expérience de ce moment et vous pouvez donner un avis sur la manière dont les choses se sont passées. Et cet avis, cette expérience, ce rapport aux professionnels de santé, aux conditions de séjour, eh bien, est renvoyé systématiquement aux professionnels de santé. Et ils doivent s'en saisir pour prendre en compte et puis améliorer leur pratique.
Tout à fait. Et ça se fait de façon anonyme ?
C'est anonyme.
D'accord. Donc les patients peuvent
se lâcher.
Dire, c'est ça.
Ils peuvent se lâcher, ils peuvent dire ce qu'ils ont vraiment envie de dire, c'est très important.
Oui, c'est pour ça.
Ça permet effectivement de prendre en compte leur avis de la manière la plus juste possible. Mmh. Après, si quelqu'un a un grief contre un établissement de santé, il peut aussi l'écrire à l'établissement de santé qui devra aussi en tenir compte. Et ses avis seront aussi pris en compte par les représentants des usagers.
Isatis, finalement, cet outil, est-ce que c'est le bon outil pour analyser et recueillir l'expérience patient plus que la qualité ? Vous savez, il y a toujours cet amalgame entre l'expérience patient et la qualité. Est-ce que vous pouvez nous éclairer sur ce point ?
Alors, c'est un élément qui n'est pas unique en soi, puisque chaque établissement de santé est effectivement libre de pouvoir porter d'autres démarches. Isatis est vraiment un outil dédié au recueil de l'expérience patient. Il a aussi la vocation à recueillir des aspects relatifs à la satisfaction, mais c'est avant tout un outil de recueil de l'expérience patient. Mais encore une fois, chaque établissement de santé ou chaque équipe dans un établissement de santé qui veut porter un regard spécifique sur l'amélioration du service rendu peut conduire d'autres démarches de recueil de l'expérience patient en complément de celui-là.
Bien sûr, ouais.
Donc il n'est pas exclusif des autres méthodes qui peuvent être déployées dans les établissements de santé. Au contraire même, on encourage à ce que les établissements de santé puissent effectivement innover aussi sur le sujet. Il y a beaucoup de choses encore à réinventer dans le domaine. On le voit d'ailleurs à travers les résultats de la certification. Mmh. Parce qu'aujourd'hui, un des éléments quand même très importants et qui est en écart par rapport aux attendus du référentiel, c'est la manière dont les établissements se saisissent des résultats de l'expérience patient. Moins de 50% des établissements de santé sont au rendez-vous de ce critère-là. Donc il y a encore beaucoup de choses.
C'est fou, ça paraît dingue. Mais oui.
Donc il y a encore beaucoup de travail à faire sur cette thématique, sur ce sujet-là. Et sans doute que toute la démarche conduite aujourd'hui par la Haute Autorité de Santé autour des sujets qu'elle porte peut être effectivement aidante pour les professionnels et les établissements.
Alors, lors du sixième cycle de la certification qui commence en septembre 2025, il va y avoir un changement majeur, c'est que l'expérience patient va faire partie des 21 critères impératifs. Ça, c'est un vrai changement majeur. Vous pouvez nous en parler, peut-être, tout simplement.
Alors, effectivement, vous avez raison, parce qu'en fait, aujourd'hui, on passe de 17 critères impératifs à 21, et donc celui-là en fait partie. Et justement, l'idée est de pousser effectivement les équipes, les établissements de santé à se saisir de la parole du patient, d'en faire un véritable partenaire du soin. Et c'est un élément effectivement très structurant pour la suite.
Quels sont les éléments d'évaluation justement de ce prochain cycle ?
Alors, il y a effectivement 118 critères sur ce sixième cycle. Il faut préciser quand même, et ça c'est très important, c'est qu'on a souhaité, dans le cadre de notre démarche de simplification, réduire le nombre de critères dédiés à la certification. On a sans doute encore un peu de travail à réaliser donc pour les futurs cycles de certification, mais d'ores et déjà, enfin ça c'est important, on a 11% de critères en moins. Chaque critère est composé de 4 à 6 éléments d'évaluation. Et donc chaque critère est équilibré l'un par rapport à l'autre. Et dans ce nouveau cycle de certification, nous avons introduit de nouveaux sujets pour tenir compte de la santé publique, des évolutions réglementaires ou sociales ou sociétales. Et ainsi, on a par exemple introduit des critères sur l'usage du numérique, des dispositifs médicaux numériques utilisant ou pas l'intelligence artificielle. L'idée étant que, par exemple, pour ce sujet, les établissements sache cartographier l'ensemble des dispositifs qui existent dans l'établissement et une analyse des risques liés à leur utilisation. On a par ailleurs d'autres exemples autour du secteur de naissance. En France, on a une mortalité infantile qui est très importante, qui est le 27e en Europe. Donc c'est beaucoup. Il faut qu'on essaie de comprendre un petit peu le sujet. Alors il ne s'agit pas d'aller regarder précisément les pratiques à chaque fois, mais de questionner les équipes sur comment les manœuvres de réanimation, par exemple, sont en place, etc. Quelle est la formation des professionnels autour de ces questions-là ? Et donc, on a un certain nombre de sujets qui vont venir après soutenir peut-être des recherches épidémiologiques, etc. Donc, d'autres sujets aussi concernent le référentiel de certification, puisqu'on va aller travailler de manière un petit peu plus précise sur un certain nombre de thématiques qui sont aujourd'hui porteuses de risques pour les malades. Alors, le premier, par exemple, c'est le secteur interventionnel. Au bloc opératoire, un élément de sécurité pour le patient, c'est l'utilisation par les professionnels de la checklist. Et cette checklist, on sait qu'aujourd'hui, elle est diversement mise en œuvre. Et donc, à travers nos changements de méthode par rapport au bloc opératoire, au secteur interventionnel, eh bien, on va aller regarder de manière précise comment cette checklist est mobilisée. On a un autre secteur qui est effectivement un secteur qui a été très en écart sur le cinquième cycle par rapport aux attendus du référentiel de certification, c'est le secteur de la psychiatrie. Et dans ce secteur de la psychiatrie, on va aller effectivement regarder de manière un petit peu plus précise certaines pratiques, comme par exemple la pratique de l'isolement en psychiatrie. Cette pratique, elle est mobilisée dans certains établissements et pas dans d'autres. Donc on va s'interroger sur pourquoi là, pourquoi pas là. Et il faut effectivement qu'on arrive à un moment donné à avoir une approche un peu consensuelle autour de l'utilisation de ces approches qui, d'un côté, sont jugées comme thérapeutiques et puis de l'autre comme très attentatoires aux libertés. Donc voilà, on a des sujets comme ça qui sont portés par le sixième cycle de certification et qui ont, on le voit, un enjeu fort en termes de respect des droits des patients et en termes d'amélioration des pratiques pour les professionnels. Et par ailleurs, dans ce nouveau cycle de certification, le référentiel intègre une dimension en fait santé publique forte. On a aujourd'hui beaucoup de personnes âgées qui arrivent à l'hôpital et souvent par les urgences, ce qui est très délétère en fait. Et le référentiel de certification a introduit un critère demandant en fait aux établissements de santé d'éviter le passage par les urgences pour les personnes âgées de plus de 75 ans. C'est-à-dire que normalement, tout patient, toute personne âgée pris en charge à son domicile ou dans un EHPAD, doit pouvoir bénéficier du service adapté à sa pathologie, mais sans passer par le service des urgences. Alors on aura des recours. Par exemple, on pourra utiliser la télésanté pour éviter de passer ou de venir même tout simplement à l'hôpital. Où on pourra avoir des modalités de prise en charge par des professionnels adaptés à la problématique de santé qui concerne le sujet âgé.
La HAS vient de publier un guide qui s'appelle « Expérience patient et savoir expérientiel ». On peut le trouver d'ailleurs sur le site de la HAS. En deux mots, qu'est-ce que c'est ?
Justement, ça éclaire les équipes sur les différentes nuances et ce qu'il faut comprendre derrière ces deux sujets. Et donc, c'est donner des outils et des clés de compréhension pour avancer justement sur une meilleure prise en compte du patient comme partenaire. Et on peut être amené effectivement dans les établissements de santé à avoir recours à des patients experts, des patients qui ont cette capacité à pouvoir expliquer ce que c'est que de vivre avec une maladie. Et les équipes de soins ont tout intérêt effectivement à se saisir de ces paroles-là pour en faire des démarches d'amélioration de leur travail. Et c'est effectivement le sens aussi de l'histoire, parce qu'on voit que la place des usagers et la parole des usagers...
Elle a énormément évolué.
A beaucoup évolué,
effectivement. Oui. Alors ça, c'est intéressant. C'était ma question suivante. Donc merci pour cette belle transition. Est-ce que vous pouvez nous parler de l'évolution de la parole du patient ? Parce que ça remonte quand même, en fait.
Alors ça remonte aux années 58, effectivement. En 1958, 20e siècle, milieu du 20e siècle, où on commence effectivement à considérer le malade comme une personne, en fait, qui est plus comme un objet de soin, en fait. Et c'est plus on va avancer effectivement dans le temps, et cette place va se modifier, mais elle va se modifier quand même assez lentement entre 58 et 2002, loi Kouchner, où effectivement, voilà, plutôt que d'être objet de soin, il va devenir sujet, participant aux décisions qui le concernent, et on voit qu'aujourd'hui, en fait, il devient plutôt un partenaire, et c'est ça effectivement qui est souhaité, mais qui nécessite effectivement un changement de regard, de posture de la part des professionnels de santé. C'est finalement le plus difficile. Les malades arrivent facilement à changer de point de vue et de perspective. Les professionnels de santé, c'est plus compliqué. Et on voit effectivement qu'il y a des choses à accompagner en termes de formation, en termes, alors dès le départ, hein, de la formation initiale, que ce soit des médecins, des infirmières, et tout au long en fait, du parcours professionnel.
C'est vrai ce que vous dites, on ne leur apprend pas ça en fait. Hein. On n'apprend pas aux médecins l'expérience patient. Comment annoncer par exemple une mauvaise nouvelle à un patient en y mettant un peu les formes. Tous les médecins hein, qu'on reçoit dans ces podcasts nous disent « mais jamais, jamais on nous en parle ». C'est quand même fou.
C'est vrai. C'est un élément, effectivement, d'évolution à venir, bien évidemment. Mais de même, vous savez, quand il y a eu un dommage lié aux soins, quelque chose qui n'était pas prévu, mais bon, voilà, ça peut arriver qu'il y ait des erreurs. Eh bien, informer sur le dommage lié aux soins est quelque chose qui est aussi extrêmement difficile et compliqué. La HAS a défini des guides là-dessus pour accompagner les professionnels, mais on voit bien, effectivement, que dans les faits, il reste encore des difficultés dans la mise en œuvre. On a beaucoup quand même, dans les établissements de santé, beaucoup de lettres de réclamation portant sur ce sujet-là. C'est-à-dire que le manque d'information, le manque d'empathie aussi de temps en temps. Enfin, voilà, donc il y a beaucoup de choses à travailler encore sur le sujet.
Quelles sont, et c'est ma dernière question, les ambitions de la HAS et en particulier de votre service? Je rappelle que vous êtes chef de service certification des établissements de santé. Pour justement ce prochain cycle.
Ah bien, comme on l'a évoqué, c'est-à-dire avec le critère sur l'expérience patient qui devient un critère impératif, on s'attend effectivement à ce que les équipes de soins s'emparent encore mieux du sujet et fassent que ce critère impératif-là soit parfaitement bien coté pour la suite. Ça voudra dire simplement, c'est pas one shot, c'est pas au moment de la visite où il faut se préoccuper du sujet, mais c'est véritablement inscrire cette démarche et cette thématique dans les pratiques du quotidien. Parce qu'en fait, au final, c'est ça qui compte. On ne fait pas de la qualité pour la visite de certification.
Il faut que ça reste après.
C'est ça, il faut l'inscrire dans les pratiques de tous les jours, tout le temps, et le réajuster en cas de besoin, enfin, etc. Donc c'est un travail permanent en réalité. Et donc voilà, donc on aspire effectivement à ça.
Merci beaucoup Patrick Méchin pour votre participation à ce podcast, c'était absolument passionnant.
Merci.
À bientôt, bonne continuation à vous.
À l'occasion de la journée annuelle de l'expérience patient, retrouvez les podcasts de l'IFEP animés par Jessica Falour.